Et il est 19h20.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
On en a tant soupé de ce mot épidémie, mais voilà que l'OMS l'emploie également pour parler obésité, tant la progression de l'obésité à l'échelle mondiale est importante et même fulgurante. Les chiffres européens que l'Organisation mondiale de la santé a montré en début de semaine parlent de 59% des adultes, un enfant sur trois, et aussi de 13% des décès, de 200 000 cas de cancer supplémentaires. En France, nous sommes aussi dans le lot de ceux qui devront nous inquiéter, même si le problème a été très bien identifié depuis plusieurs années. 17% des adultes concernés, autour d'un enfant sur 4. Nous ne sommes pas le pire des pays, loin de là. Nous essayons de nous stabiliser, mais nous n'échappons pas aux maux de notre époque qui sont les causes souvent directes de l'obésité, la sédentarité, les changements alimentaires, la malbouffe. Et tout cela, vous vous en doutez, est repassé dans le rouge pendant les confinements. C'est aussi ce virage qui intéresse l'OMS. Le frigo, trop près du bureau, l'ennui toute la journée, rien à faire à part rester devant la télé, la bouche pleine. On a tous vécu ça avec, évidemment, le trop gras, trop sucré, trop salé. Et quand les grandes marques aiment à nous vendre ces choses-là, mais rechignent à les rendre transparentes, c'est-à-dire quand on leur demande l'exact de composition de ce qu'ils nous vendent. L'obésité n'est pas une gêne, c'est une maladie qui en provoque d'autres. Donc l'aide à la solution est médicale, elle est aussi politique. Taxation des produits très sucrés, aide à l'achat de produits sains, plus de prévention très tôt et dès l'école. L'épidémie d'obésité, c'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
La première, c'est vous Chantal, soyez la bienvenue, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, écoutez, alors moi, c'est un petit témoignage d'enseignante particulièrement choquée de ce qu'elle a constaté ces 5 dernières années, donc un petit peu avant les épidémies qui nous ont perturbées. À savoir, j'avais des élèves de 7 ans et demi qui avaient des goûters complètement délirants, mais en fait, ça ne se bornait pas à ma classe, hein, c'était au niveau scolaire. On pouvait passer du paquet de chips aux boîtes de biscuits apéritifs, tout ce qui était très très riche. Comme je disais tout à l'heure à votre intervenant, les seuls qui bénéficiaient de goûter sains, à savoir, je sais pas, une moitié de carottes, deux, trois petits légumes dans un petit tupperware, c'était les enfants originaires de l'Europe du Nord, c'est Scandinavie, Norvège, etc. Et quand j'en parlais aux parents, les parents trouvaient que les goûters de mes petits nordiques, eh bien, c'était un problème, que finalement, on respectait pas leur gourmandise. Mmh. Et nous avions beaucoup d'enfants aussi qui dînaient seuls devant des plats tout préparés. Comme m'a dit un jour un petit garçon, tu sais, maman, elle fait ça parce que comme ça, je mange, je casse pas les pieds et en même temps, je regarde la télé, j'en mets personne. Mmh. Résultat des courses, notre chef d'établissement a fini par interdire les goûter, parce que quand on voyait les corps, et moi j'ai vu ces deux dernières années, les corps de mes petits garçons à la piscine et de mes petites filles, je n'avais plus les mêmes élèves que j'avais il y a une quarantaine d'années. C'est-à-dire qu'il y avait des petits corps très mous, des débuts de petits seins chez mes garçons, des petits ventres, des cuisses, comme je disais aussi, qui se touchaient quand ils marchaient. Et ce n'était pas un seul enfant. Mmh. Sur 24 enfants, j'avais bien, 11 gamins qui n'étaient pas nécessairement... Je peux pas dire le terme norme, mais qui avait des petits corps, des petits corps mous et pas des corps dynamiques, sveltes. Voilà, c'était lié à une alimentation qui était complètement délirante et les efforts même faits dans le cadre du restaurant scolaire passaient assez mal.
Passer mal, c'est-à-dire, pardon Chantal, passer mal, ça veut dire quoi?
Au niveau de la gourmandise des enfants et puis une non-habitude, si vous voulez, c'est toujours pareil. Quand des enfants sont habitués à marcher au soda, à marcher au biscuit salé, à avoir des plats tout préparés un petit peu riches, quand vous faites un effort au niveau du restaurant scolaire pour qu'il y ait un petit peu de respect, on va dire, d'un petit légume, d'une petite viande ou autre, et que vous voyez que les enfants rechignent à manger complètement, ils sont capables plutôt de se gaver de pain. Et là aussi, on était obligé de comptabiliser le pain. On respectait les desserts. Mais c'est une éducation. Et les parents n'étaient pas nécessairement dans notre... Ils en avaient conscience. Mais malheureusement, ils n'étaient pas nécessairement dans notre dynamique parce que, mais vous comprenez, sinon on ne va pas s'en sortir. Et puis après tout, si c'est dans les magasins, il faut que ça serve.
Merci pour ce témoignage et pour cette entrée en matière, Chantal, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Karine Clément est avec nous. Vous êtes médecin, professeur en nutrition à la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes directrice de recherche INSERM Sorbonne Université. Vous êtes à Maastricht au moment où on se parle et précisément à un congrès européen de l'obésité. Je vous salue et Camille Doriot est là également. Bonsoir Madame Doriot. Vous êtes responsable de campagne à l'ONG Foodwatch.
Bonsoir.
Monsieur, pardonnez-moi.
Bon,
je suis absolument désolé. Monsieur Doriot, vous êtes responsable de campagne à l'ONG Foodwatch. Il y a deux choses qui m'intéressent dans le témoignage de Chantal. Je vais vous poser la question à tous les deux. Peut-être à vous d'abord, le professeur en nutrition, Karine Clément. Chantal, ils ont fini par interdire les goûters dans son établissement. Moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et puis, elle a prononcé quand même le mot de gourmandise, et moi, je pense que c'est un mot important. Il doit bien y avoir quelque chose quand même entre les chips et les gâteaux apéritifs et les carottes et les légumes des petits élèves d'Europe du Nord, comme elle le disait, Karine Clément.
Oui, bonsoir. Donc effectivement, l'entrée en matière était assez intéressante. Votre auditrice a dit beaucoup de choses, et notamment sur les goûters. Donc, et en fait, ce qu'elle exprime, c'est tout l'enjeu de l'éducation. Et qui doit être faite très très tôt finalement. Donc je suis pas certaine que dire on interdit tel et tel type de d'apport ou de goûter soit forcément une bonne solution. Les enjeux sont vraiment un enjeu effectivement d'éducation et d'équilibre finalement des apports. Et ce qu'elle citait en fait sur les goûters de certains enfants, c'est le problème de la densité en énergie. C'est-à-dire que ce sont des aliments où qui ne rassasient pas. Et en fait, très très vite, les enfants vont avoir encore faim en fait. Mais ce que je voulais dire également, c'est que ça se résume pas à l'alimentation. Il y a plein d'autres facteurs hein, qui peuvent être en cause dans le développement de l'obésité, bon, en particulier chez l'enfant.
Quand on y reviendra bien sûr, quand Chantal nous dit qu'elle l'a vu, les corps changer, les petits corps changer, est-ce que vous diriez qu'en un laps de temps effectivement très court, vous aussi, le médecin que vous êtes, avez vu les corps des enfants changer ?
Alors oui, ça c'est une observation que on fait tous. On peut reprendre la définition de l'obésité, qui est la définition faite médicale, qui est une augmentation de la masse grasse ayant des conséquences pour la santé. Mmh. Hein, vous savez que en fait, en pratique clinique, bon, on utilise un index qui est simple, hein, qui est l'index de masse corporelle, qui est le poids en kilo divisé par la taille en mètres au carré. Mmh. Mais
IMC,
en fait,
ouais.
L'index de masse corporelle, ce que dit votre effectivement auditrice, c'est qu'elle a vu ses corps changer et en fait, c'est non seulement une augmentation de la masse grasse globalement, mais également de la distribution, c'est-à-dire où est localisée la masse grasse. Est-ce qu'elle va être localisée plus au niveau de l'abdomen, plus au niveau des cuisses? Donc, et on a cette observation en fait de changement des corps qui avait été faite d'ailleurs il y a déjà pas mal d'années hein, par des collègues qui dans des cohortes européennes. Qui suivaient en fait les petites filles et les petits garçons et qui avaient remarqué en fait des changements et notamment au niveau du tour de taille.
Est-ce que, on y viendra après, je voudrais me tourner vers vous, Camille Doriot. C'est intéressant que notre auditrice ait cité les pays nordiques déjà avec les petites carottes et les petits légumes parce qu'on a l'impression que certains pays, contrairement aux nôtres, sont en avance sur beaucoup de choses, j'y pense, parce que je pense à la taxe x2 sur les produits trop sucrés, par exemple, qui existe en Norvège et qui est beaucoup moins contraignante dans d'autres pays européens, et notamment le nôtre. Donc, est-ce qu'on se dit que, et est-ce que vous le voyez dans une ONG comme la vôtre, il y a vraiment une vraie différence de culture dans nos pays, dans l'Europe du Nord et peut-être dans d'autres pays aussi, d'ailleurs ?
D'autant plus qu'une différence de culture, on voit aussi une différence de volonté politique en fait. On a une volonté politique plutôt des pays nordiques de s'attaquer à cette problématique de la malbouffe. En France, faut pas penser qu'on est tout en bas qu'on est les derniers de l'Atlas. On a des taxes sur le sucre, la taxe soda qui a été mise en place. Il y a certaines choses qui ont été mises en place, mais elles ne vont pas du tout assez loin. Et la preuve, c'est qu'elles n'arrivent pas du tout à enrayer l'épidémie d'obésité. Moi, sur ce premier témoignage, je note un truc, c'est qu'il manque un des grands suspects quand même, parce qu'on a parlé d'éducation, on parle des parents, on parle de tout ça, mais il manque les fabricants, parce qu'en fait, les vrais responsables dans l'histoire, c'est pas obligatoirement les parents qui achètent des chips, c'est ceux qui les produisent et qui font tout pour les mettre dans la main des enfants lors du goûter. Et moi, j'ai bien entendu le côté où les parents disent on est tranquille comme ça, mais s'ils sont pas tranquilles, c'est justement parce que les industriels, eux, ils se sont mis dans la tête des enfants pour qu'ils embêtent les parents jusqu'à temps qu'ils leur achètent ce produit. Et ça, c'est un vrai problème et c'est un vrai phénomène. Hein. C'est ce qu'on appelle le marketing qui cible les enfants. Et ça fait partie des trucs qu'il faut interdire. Hein. C'est ce que demande l'OMS depuis des années et qui n'est pas mis en place, entre autres en France.
Entre autres en France d'ailleurs, et tant que je vous tiens là-dessus, est-ce qu'il y a des endroits, notamment en Europe, où l'interdiction est faite de publicité trop gras ou pas, de produits trop gras, ça existe ou pas?
Alors ça avance, parce que comme vous le voyez, l'épidémie d'obésité avance aussi. Alors c'est pas en France qu'on a eu les premiers exemples, c'est au Chili où ça a été mis en place, où l'épidémie était beaucoup plus forte et grande, avec des grandes consommations de soda, donc ça a eu un impact très fort, et du coup on voit que ça marche. Là, on voit qu'en Espagne, c'est en train d'avancer. On voit en Angleterre, en Allemagne. Et du coup, là, par contre, la France est plutôt à la traîne dans sa volonté de réglementer ce type de marketing.
En revanche, qu'on soit d'accord, on a une taxe soda. On a même une taxe soda bis, autant que je sache. Est-ce qu'elle a fonctionné déjà ou pas?
Alors, elle existe. Hein. Elle a été faite une première fois. Elle a été augmentée une deuxième fois.
2012-2017.
Exactement. Ouais. Mais il faudrait la renforcer encore. Elle devrait être proportionnelle presque à la quantité de sucre qu'on trouve dans les produits, en fait, pour pouvoir vraiment inciter les industriels à la fois à réduire la quantité de sucre dans leurs produits et à pas le remplacer obligatoirement par des édulcorants. On en parlera peut-être après.
Ouais.
Et de l'autre côté, faire que les produits qui sont vraiment, vraiment trop sucrés, ben, le prix soit un petit peu une façon aussi de réduire la quantité qu'on en consomme.
Alors c'est vrai que ça, le prix, c'est ce qu'a fait la Norvège, mais alors ce que vous dites avant de retourner au standard sur le fait qu'il faudrait accorder le prix avec la masse de sucre, en quelque sorte, moi je crois que c'était le cas en 2017.
Alors, vous avez raison, c'est le cas, mais c'est pas encore on va dire que ça monte pas assez vite. Vous avez raison, c'est le cas.
C'est 1 gramme de sucre pour 100 millilitres, c'est ça l'idée.
Exactement.
En fait, moi je voudrais savoir ce que ça veut dire en fait, parce que je me rends pas compte sur une canette de Coca, pardon de les citer, ça veut dire eux ils sont où en fait là-dessus, par exemple.
En fait, j'aurais du mal à vous dire exactement combien ça représente en termes de prix. Par contre, je peux vous dire ce que ça représentait en termes d'impact sur Coca. Pour tous ceux qui ont déjà acheté des bouteilles de soda, ils ont vu les bouteilles passer de 2 litres à 1,75 centilitres. Ben voilà, ça c'est l'effet de la taxe soda. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait ces changements-là. C'était pour éviter d'augmenter le prix à l'unité. Ils ont réduit la quantité à l'intérieur des produits.
Et c'est vrai, on va retourner au standard dans un instant, mais il y a une autre question, Karine Clément, enfin un mail d'une auditrice qui s'appelle Anna et qui dit: on a toujours dit à nos enfants, McDo est un empoisonneur, si tu veux un jouet, on ira dans un magasin de jouets, si t'as faim, on ira au restaurant. Ils ont toujours ça en tête, ils y vont une fois de temps en temps avec des amis, mais c'est tout. Et moi, ce que je vois en fait avec ce témoignage, avec ce que nous raconte aussi la première auditrice, c'est que il y a effectivement quelque chose de coercitif vis-à-vis des enfants qu'il faudrait arriver à lever. En fait, on entend parler d'interdiction tout le temps et partout. Il y a quand même une énorme marge entre éducation en effet et interdiction.
Oui, enfin absolument. Moi, ça me gêne toujours un peu de pointer du doigt ou de stigmatiser tel et tel vendeur ou on a cité une marque. Bon, il y en a d'autres, mais je crois que
c'est surtout les mêmes ennemis tout le temps. Il y en a beaucoup d'autres, je pense.
C'est ça. Et donc on essaie de trouver le bouc émissaire. Et en fait, ce qui est très particulier avec l'obésité, ou plutôt les obésités, il y a quand même différents types de problèmes, c'est vraiment l'aspect divers et multifactoriel. Bon, on a évoqué l'alimentation, et en fait il y a des enjeux d'éducation alimentaire parfois simples, en fait, de retrouver des habitudes de repas. La première auditrice tout à l'heure parlait du plateau mangé devant la télé. Bon, bah ça va pas quand on est. Ça, c'est quelque chose de simple. Un repas, il y a une convivialité, il y a quelque chose qui doit être fait en famille sur une préparation du repas qui fait partie aussi de la vie familiale. Donc, parfois, revenir sur ce côté éducation, c'est important. Et l'autre point, c'est que la progression actuelle de l'obésité ne se résume pas, en fait, au changement alimentaire. C'est un élément extrêmement important, mais il y a bien d'autres facteurs. Comme
Agnès,
bien sûr, l'activité, la sédentarité, etc.
Et on va y venir, c'est promis. Agnès est avec nous. Bonsoir, Agnès.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je viens d'écouter ce que vous venez de dire. Donc, moi, je vous ai contacté d'abord pour une première réflexion. Au début du siècle, au début du XXe siècle, les caricatures montraient les riches bien en chair et les pauvres maigres et faméliques. Et à peu près jusque dans les années 50, et après, ça s'est inversé. Maintenant, les riches sont sveltes et minces et les pauvres sont bedonnants. Donc ça, c'est une première chose. Donc y a, les pauvres sont donc ceux qui mangent mal. D'autre part, je me souviens d'un excellent documentaire sur le service public audiovisuel il y a quelques années, sur le sucre, où il était dit qu'à partir de la moitié des années 70, les industriels ont augmenté de 15% leur taux de sucre dans l'alimentation, en particulier l'alimentation sucrée, le chocolat, les gâteaux, etc. Et que le pouvoir addictif du sucre était équivalent à celui de l'héroïne. Et il y avait une très intéressante expérience avec des rats. Donc n'y a-t-il pas quand même quelque chose à faire au niveau des industriels? Parce que si on augmente le prix, bon d'accord, ça sera peut-être dissuasif dans un premier temps, mais quand même. Sachant que, effectivement, plus on mange du sucre, plus on a envie d'en manger.
On va y aller sur cette idée d'addiction au sucre. Je vous remercie beaucoup pour cette question, Agnès. Et c'est vers vous que je me tourne, Karine Clément. Est-ce que, effectivement, il y a le sucre, appelle le sucre, le sucre agit un peu comme la nicotine, au fond, pour les fumeurs, toute proportion gardée. Est-ce qu'il y a vraiment cette addiction qui est générée?
Alors, en fait, on mange rarement du sucre tout seul. Déjà, il y a une première chose, c'est-à-dire dans les aliments, y compris les aliments transformés, même s'il y a eu des efforts sur le gras, mais souvent c'est l'association des deux, parce qu'on a tendance à, de la même façon, hein, pointer le sucre, mais on pourrait faire aussi la même réflexion sur le sel. Hein. Votre auditrice mentionnait le sucre, mais il y a aussi eu des augmentations des apports en sel. Donc il y a un enjeu qui est de façon globale, qui sont l'alimentation transformée. Et effectivement, dans cette alimentation, il y a les enjeux de composition. Ensuite, on peut réfléchir au modèle biologique, c'est-à-dire qu'il y a des modèles animaux, par exemple, où effectivement on peut entraîner des animaux à consommer du sucre. Mais en fait, il y a des animaux qui vont avoir plus de goût pour le sucre, d'autres plus de goût pour le gras. Et en fait, ce sont des phénomènes qui touchent les neurones dans le cerveau, qui sont extrêmement compliqués. Mais en tout cas, oui, on a des récepteurs au sucre, au gras, en fait, dans le cerveau et dans les voies biologiques qui contrôlent la prise alimentaire, et également des voies biologiques de la récompense à l'alimentation. Donc tout ça, enfin, ce qu'on entend, qui est de dire, bon, attention, il y a... après, est-ce qu'il y a une volonté de créer une addiction? Bon, je serais peut-être plus prudente.
Et est-ce que les édulcorants provoquent la même chose dans le cerveau, notamment de ce que vous venez de nous expliquer, ou pas, Karine Clément?
Alors là, les travaux sur les édulcorants, oui, on s'est aperçu qu'il y avait, entre guillemets, ça ne règle pas le problème de effectivement l'appétence pour le sucre. Et puis bon, il y a d'autres soucis avec les édulcorants, parce qu'en fait on garde en fait ce goût sucré, donc ça peut poser effectivement des difficultés.
Il y a autre chose, Camille Doriot, dans la question de notre auditrice qui nous interpelle forcément et qui est une réalité. Elle a raison sur la manière dont les caricatures sont faites, étaient faites autrefois et sont faites aujourd'hui. Il y a une fracture sociale dans l'obésité et donc dans la malbouffe qui est criante. Il y a même une fracture géographique en France d'ailleurs.
Tout à fait. On voit bien que l'impact de la malbouffe n'a pas la même selon les différentes classes sociales, sinon même selon les différents endroits du pays. Après, c'est vrai que quand on regarde, il y a vraiment... Je vais retourner sur cette responsabilité un peu des industriels. Je vais insister dessus, parce que cette appétence pour le sucre, elle vient aussi par le fait qu'on retrouve du sucre partout. Mais je vais spécifier quel type de sucre, parce que je pense que il est important de dire, c'est ce fameux sucre ajouté. Et en fait, moi, j'appelle ça la petite cuillère de sucre qu'on retrouve partout. Et c'est vrai que nous, à Foodwatch, on a l'habitude de recevoir des produits, d'aller d'écouter les consommateurs et aussi d'aller dans les supermarchés retourner les produits. Et moi, je retrouve du sucre, mais dans des légumes surgelés, dans des conserves de haricots verts. Il y en a strictement partout. Et en fait, pourquoi? À la fois pour combattre une certaine amertume peut-être de certains produits pour aller dans le sens de ce goût sucré, mais aussi parce que quand vous avez mis une cuillère de sucre, c'est une cuillère de haricots verts, entre guillemets, que vous mettez en moins. Et le sucre, c'est pas cher. Et du coup, remplir vos produits avec du sucre, c'est le meilleur moyen possible de faire le plus de marge possible sur vos produits. Et du coup, ça, c'est vraiment un point qui est très important. D'où l'important de bien regarder quand on consomme, entre guillemets, s'il y a du sucre ajouté dans vos produits, dans la liste des ingrédients, dans le tableau nutritionnel.
Oui, apprendre à lire ces choses-là qui ne sont pas partout d'ailleurs. Hein, le Nutri-Score aussi, notamment sur un certain nombre de boissons sucrées, etc., sont des choses que vous réclamez à corps et à cri, et pas que vous. D'ailleurs, je voudrais qu'on écoute Julie. Bonsoir Julie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors moi je suis médecin et j'appelais par rapport à la prise en charge d'un suivi diététique. Alors bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui est dit sur la prévention, c'est le plus important dès le jeune âge et de pour changer donc les habitudes alimentaires et notamment donc au niveau des industriels, tout ce qui a été dit. Maintenant, nous en médecine du travail, par exemple, on va rencontrer des personnes avec donc des problèmes d'obésité et à ma connaissance, la consultation avec des diététiciennes ou des diététiciens sont pas pris en charge par la sécurité sociale et c'est quand même un frein pour les personnes après parce que ça change, il n'y a pas juste une rencontre qui va régler le problème, il va falloir un vrai suivi. À côté de ça, il y a aussi la question de la prescription donc du sport, donc c'est en cours. Nous, les médecins de travail, on n'est pas concerné, je crois, pour l'instant. Voilà, donc voilà mes questions.
Eh bien, merci beaucoup et on va tout de suite les poser à nos invités. Karine Clément, pas pris en charge. Est-ce qu'on parle même de tout problème de poids, c'est-à-dire, parce que si c'est juste pour faire un régime et perdre quelques kilos, je peux comprendre, est-ce que les problèmes d'obésité ne sont pas pris en charge? Je sais qu'ils ne sont pas reconnus comme maladies chroniques, mais pas pris en charge du tout.
Alors oui, donc en fait, effectivement, votre auditrice touche un point extrêmement important et pour lequel on essaie un petit peu aujourd'hui de faire bouger les choses sur la prise en charge. C'est des demandes qu'on fait depuis longtemps et qui sont en fait cette prise en charge globale. Où finalement autour d'une personne en situation d'obésité qui est à risque de pas mal de pathologies, il y a pas mal d'acteurs en fait. Il y a bien sûr le médecin, il y a des gens qui vont s'intéresser à la nutrition de la personne, puis des gens qui vont s'intéresser à l'activité physique, puis également aux enjeux de également psychologiques qui peuvent intervenir. Donc en fonction des situations. Encore une fois, l'obésité d'une personne, c'est pas celle d'une autre. Donc, il y a différents acteurs de santé qui vont intervenir. Et donc, effectivement, on avait essayé de durant la période Covid, entre guillemets, d'être dans une situation en disant, il faut aider en fait les personnes en situation d'obésité et notamment en demandant le remboursement pour notamment les diététiciennes et d'ailleurs la prise en charge psychologique aussi spécifique. Et donc c'est un des grands enjeux du plan obésité en fait qui a démarré en 2019, donc avant la période de la pandémie du Covid, et pour lequel justement un des enjeux c'est d'améliorer la prise en charge. Et en tant que, alors là je prends ma casquette de médecin plutôt que de chercheur, mais on attend beaucoup en fait de ce plan obésité avec vraiment une prise en charge des parcours de soins. Qui, encore une fois, ne sont pas les mêmes en fonction des situations.
Et pour ce qui est de la prescription du sport, c'est un sujet dont on parle effectivement beaucoup aujourd'hui, ou du sport, ou en tout cas d'une activité physique. Je suis assez curieuse de savoir, est-ce que vous le réclamez et est-ce que ça marche? Est-ce que ce serait réellement suivi selon vous? Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Là aussi, on a un enjeu d'éducation. D'ailleurs, c'est un autre plan un autre objectif du plan obésité, c'est la formation en fait aussi des acteurs de santé qui sont pas nécessairement formés à la prise en charge de l'obésité. Donc, la prescription de l'activité physique, c'est vraiment un point extrêmement important. Et c'est plus que ça en fait. Il y a des enjeux de lutte contre la sédentarité, également prescription de l'activité. Et pour moi, c'est un des outils de la prise en charge de l'obésité et il faut pas s'en passer en fait. Mais il faut savoir prescrire et ça s'apprend.
Camille Doriot, là-dessus, sur ces la non prise en charge, le fait qu'on laisse un peu. En fait, ce que ça veut dire, c'est que on laisse ces gens avec leurs problèmes, sans les guider vers la solution et vers la sortie. En tout cas, pas sans les aider, ne serait-ce que financièrement.
J'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Hein. C'est totalement inadmissible hein, de laisser des personnes comme ça sans aide, sans possibilité de s'en sortir. Je noterais quand même que faut pas oublier que la Cour des comptes a identifié que le surpoids et l'obésité ça coûtait 20 milliards d'euros par an à la France et que la DG Trésor, donc la Direction générale du Trésor, elle dit que c'est carrément le même coût que l'alcool ou le tabac. Donc quand vous compariez tout à l'heure à la nicotine, c'est pas non plus totalement à côté de la plaque de dire ça. Aujourd'hui, là, on a un vrai problème de société qui coûte beaucoup d'argent et il y a plein de moyens sur la table pour le faire. Il manque juste un petit peu de courage politique pour pouvoir y aller.
Camille Doriot, est-ce que vous diriez que tout le travail que vous pouvez faire, vous, chez Foodwatch, mais aussi d'autres, a été extrêmement mis à mal par la pandémie, qu'on est même revenu, si ce n'est à la case départ, mais en tout cas obligé de refaire tout un travail, toute une rééducation aussi, et y compris vis-à-vis des produits et ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, parce que alors pour le coup, ce qu'on appelle la comfort food, pendant la période de confinement, ça a été le doudou de beaucoup de gens. Hein.
Alors oui, et à la fois j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris du temps pour regarder ce qu'il y avait dans leur frigo, pour le recuisiner, pour identifier des choses sur les étiquettes. Moi je vois un intérêt grandissant chez le consommateur pour comprendre ce qu'il mange et comprendre ce qu'il a dans son assiette, même quand il s'agit de nourriture ultra transformée. Du coup non, je vois plutôt quelque chose qui avance, mais je vois surtout des politiques qui préfèrent faire confiance globalement aux industriels qui en leur laissant le choix de faire de l'autorégulation, c'est-à-dire de prendre eux-mêmes les décisions. En disant vous inquiétez pas, on ciblera pas les enfants avec nos produits de la malbouffe, et quand on regarde ce qui se passe, ils le font quand même sans aucun scrupule.
Karine Clément, est-ce que vous avez le sentiment, vous, avec vos patients, que vous êtes revenu pour certains à la case départ vraiment pendant cette période de confinement?
Alors en fait, je voudrais juste préciser une chose sur la prise en charge, parce que quand même il y a eu des centres qui ont été créés. Il y a quand même 37 centres dédiés à la prise en charge de l'obésité sur le territoire national. Et je suis d'accord avec le collègue. C'est sur le fait qu'il y a besoin effectivement de maintenir ces centres avec une organisation des soins sur le territoire national. Et donc ça, justement, c'est ce qui est attendu des politiques. C'est des vraies décisions par rapport à la coordination, parce que tout est là, en fait. Les outils sont là, les outils sont présents. Ça, simplement, il faut pouvoir les maintenir. Donc, voilà. Donc, ça c'est vraiment un point important. Et juste pour revenir sur la période pandémique...
Ouais. Bon, un mot là-dessus. Est-ce que c'était retour à la case départ pour certains?
Eh bien, en fait, on a suivi, alors nous, des patients du service, en fait, il se trouve que pendant la période pandémique, on a organisé avec les collègues des appels téléphoniques des patients, etc., pour voir comment ils allaient. Et il y avait plusieurs cas de figure. C'est-à-dire, comme vous le dites, chez certains patients, ça a été mal vécu, mais finalement, comme plein d'autres patients, ou plein d'autres patients en situation de santé, ou plein d'autres personnes malades. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu des situations extrêmement difficiles où les gens ont complètement relâché, ça a été très dur. Et au contraire, d'autres, donc il y avait différents profils, et au contraire, d'autres ont peut-être aussi moins de stress pour effectivement recuisiner, essayer de regarder les produits et même se remettre à l'activité physique. Et donc, et on a pu suivre en fait l'évolution donc après la pandémie, en fait, en fonction des différents profils. Et on a un petit peu des différences en fait en fonction de groupes de personnes.
Didier est avec nous. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
On vous écoute Didier.
Eh bien, simplement un témoignage. Il y a 2 ans, je suis tombé sur une émission sur vos voisins de France Culture. Sur la médecine, donc je n'ai jamais pu retrouver la trace, mais je compte sur vous. Une heure excellente, des témoignages, une très bonne émission, comme d'habitude, pour une conclusion, en une ligne. Le plus grand ennemi de l'humanité, c'est la sédentarité. Alors je pense que vous venez d'en parler. À titre indicatif, moi je ne mange plus de sucre depuis le confinement, j'ai perdu 10 kilos et je suis dans une forme éclatante. Par contre, je mange beaucoup de protéines, beaucoup de sucre lent, des fruits et des légumes. Voilà. L'alcool et à partir de là. Bref, c'était pas le sujet du jour, j'en suis conscient. Mais voilà, je voulais juste mettre le point sur la conclusion de cette émission de France Culture, c'était de dire ne stigmatisons pas toujours les nourritures, mais par contre, stigmatisons le manque d'exercice de la part des individus.
Et merci pour ce témoignage, Didier. Camille Doriot, en préparant cette émission, j'ai lu là-dessus quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Quand on a essayé de tordre le bras d'un certain nombre de grandes marques, l'une de leurs réponses, précisément, c'était de dire non, mais c'est pas les boissons sucrées qui sont responsables de l'obésité, c'est effectivement le manque de sport. Et au fond, j'ai un peu le sentiment d'entendre les arguments des porteurs d'armes qui disent c'est pas les armes qui tuent, mais c'est ceux qui s'en servent, en fait.
Oui, c'est une très bonne façon de le voir. Et là, on a vraiment genre, c'est toujours pareil. Il est très simple à la place de prendre ses responsabilités. Les industriels préfèrent la déléguer soit sur les consommateurs, soit sur les parents et leur éducation. Et c'est vraiment une volonté d'évitement pour continuer à vendre du sucre qu'ils vendent très très cher en passant. Hein. Genre, du coup, il y a vraiment un gros business à assembler. Et sur la sédentarité, je trouve ça assez intéressant. Et à la fois, il y a tellement d'ironie aussi qu'on peut voir. Regardez les grands sponsors de nos grands clubs de foot ou de nos grandes de la Fédération française de foot, Coca-Cola, KFC. La sédentarité et en même temps une bonne dose de sucre. Vous prenez un jeu de foot comme FIFA, sur les jeux vidéo. La présentation se fait avec un enfant qui pleure et qui dans le couloir de foot, mais son joueur préféré vient lui amener une canette de Coca. Je suis désolé, moi j'appelle ça de la manipulation et du coup c'est ça qu'il faut arrêter parce que ça c'est si on peut pas, on pourra pas lutter contre ça. C'est-à-dire qu'on peut pas être partout derrière le dos de nos enfants tout le temps à regarder ce qu'ils voient et à les empêcher d'être influencés par ce type de marketing qui est totalement vrai. Je vais même le dire, qui est très vicieux en fait.
Karine Clément, bien sûr que bouger est important, bien sûr qu'on bouge de moins en moins, c'est intéressant d'ailleurs parce que le télétravail s'est beaucoup développé et le peu que certains bougeaient, c'est-à-dire pour aller tout simplement jusqu'à leur travail, jusqu'à une station de bus ou une bouche de métro, même ça pour certains a été enlevé. Et bien sûr que tout ce qu'on pourrait faire en termes de nutrition n'existe pas ou en tout cas peut être ramené à pas grand-chose si on ne bouge pas en même temps.
Oui, alors en fait, bien sûr, bon, c'est comme on l'a dit, c'est beaucoup de facteurs, mais je vais juste vous signaler une étude. En fait, le temps passé à lire n'est pas associé à la progression de surpoids ou de l'obésité. Donc ça veut dire beaucoup sur les
comportements. Parce qu'on lit pas en mangeant.
Et alors, oui, on lit pas en mangeant, mais peut-être que le temps passé à lire, ça traduit en fait un profil du comportement. Et donc, la promotion de l'activité physique et la lutte contre la sédentarité, c'est des actions également complémentaires, en fait, combinées. C'est-à-dire refaire de l'activité régulièrement, mais aussi quand on a passé 8 heures devant un écran, il faut pouvoir penser à bouger, à se lever. Mais encore faut-il aussi que par exemple, dans les villes, et c'est là, enfin, ça touche aussi la problématique des politiques publiques, c'est donner la possibilité à l'accès. Et ça veut dire à l'accès au mouvement, à l'activité. Et par exemple, nous, on faisait avec des collègues de notre service construire. Enfin, les gens dessinaient leur quartier, c'est-à-dire est-ce que là où vous vivez, il y a un parc à côté. Donc, vous voyez, ça, on touche même des problématiques d'urbanisme. Mais encore une fois, alimentation, activité, stress, pollution. Il y a bien d'autres facteurs en fait qui sont parce qu'on parlait de l'alimentation mais dans les additifs alimentaires c'est un autre élément aussi important.
Joanne, ce mail de Philippe qui nous dit il faudrait 4 heures d'éducation physique et sportive par semaine pour tous les élèves. Alors 4 heures c'est peut-être un peu beaucoup mais enfin pourquoi pas. Et puisqu'on parle, on reparle des élèves et des plus petits, je voudrais qu'on entende Frédéric. Bonsoir Frédéric, vous êtes la dernière mais on a du temps pour vous, on vous écoute.
C'est gentil, merci. Oui, je voulais faire part de mon témoignage. Moi je suis d'une famille d'obèses, on va parler très simplement. J'ai mes deux grand-mères qui étaient obèses, mes parents qui le sont, j'ai deux sœurs qui ont fait une chirurgie bariatrique. Pour ma part, moi, je vais être prise en charge à la Pitié-Salpêtrière au mois de septembre. Donc, il a fallu quand même un sacré parcours. Et j'ai ma fille, effectivement, qui, elle aussi, souffre d'obésité. Et moi, ce qui a été compliqué, c'est en tant que maman. Mmh. En fait, trouver un accompagnement pour ma fille. Alors, j'ai recherché. Je suis professionnelle de santé, donc je connais quand même un peu.
C'est toute première loge, ouais.
Oui, je suis assise aux premières loges, donc voilà. J'ai rencontré une première endocrinologue pour ma fille. Voilà, et en fait, le discours a été très catégorique. De toute façon, la génétique n'existe pas. Et elle lui a mis un régime catastrophique qui était ingérable pour une enfant de 10 ans. En gros, le soir, elle avait un yaourt, des carottes râpées, des haricots verts, et ça s'arrêtait là.
Voilà, et vraiment pas une écoute, écoute pour ma fille, ni même pour moi en tant que maman, donc ça a été très compliqué. Donc après, j'ai continué à chercher, et à l'heure actuelle, elle est prise en charge par le réseau prise en charge obésité pédiatrique, ce qu'on appelle le REPOP.
Voilà, et ça marche mieux aussi...
ça marche mieux, disons qu'il y a une prise en charge, il y a une écoute, voilà, et on sent vraiment qu'il y a une écoute pour l'accompagner, pour nous accompagner aussi. Mais je trouve dommage que cette part génétique, parce que malgré tout, quand je vois ma famille, il me paraît difficile de la nier. Alors effectivement, il y a tout ce problème alimentaire, ça on pourrait en parler pendant des heures, hein. Quand je vous entendais au début, j'ai envie de dire, il est plus facile de trouver une barre chocolatée que de trouver un fruit quand on a une petite faim dans la rue.
Il paraît, y compris d'ailleurs, pardon Frédéric de vous interrompre parce qu'on arrive vraiment à la fin, y compris d'ailleurs, nous dit un auditeur, dans les couloirs de l'hôpital, sur les machines qu'on trouve dans les couloirs. Mais un mot quand même, Karine Clément, sur l'hérédité qu'évoque Frédéric.
Oui, alors Frédéric a complètement raison. Il y a une part, ça fait l'objet de travaux scientifiques depuis plus de 30 ans, en fait, il y a une part génétique à l'obésité. Pour faire court, parce qu'on arrive à la fin,
il y a
des cas de figure dans lesquels il y a des formes génétiques d'obésité, et ça aujourd'hui on peut les dépister. Et donc effectivement, dans la famille de votre auditrice, ça vaudrait peut-être le coup de regarder. Et puis ensuite, il y a des formes plus communes dans lesquelles il y a beaucoup de variants de gènes qui agissent en interaction justement avec tous les facteurs d'environnement dont on a parlé.
Et merci beaucoup.
Et là,
merci
on a beaucoup progressé là-dessus.
Et bien, tant mieux. Pardon. Ce sera une... c'est bien de finir sur une note positive. Je vous remercie vraiment beaucoup tous les deux. Merci à tous pour vos très nombreux appels. Je ne vous lâche pas avant de remercier pour cette semaine qui s'achève pour nous, tout particulièrement Pascal Vestrelin pour l'excellente tenue de ce 18-20. Merci à Rémi Sistiaga à la réalisation. Amélie Stadelman et Nathalie Poitvin s'occupent de la programmation. C'est Marie-Claude Pinson qui est à la rédaction en chef et à la technique cette semaine que nous saluons. Il y avait Clément Berman et Michel Bézikian.